L'heure de la faillite de l'homme est bien souvent celle de la puissance de Dieu. Père abbé Paul Wicks, est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue ?
Tout à fait, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce petit bouquin, L'impression du cœur. Je peux dire une chose, c'est que dans des circonstances tout à fait particulières, j'ai été affronté à une crise que beaucoup de religieux, je pense, connaissent, à savoir une crise d'obéissance. Mon père abbé d'alors, j'étais à ce moment-là simple moine, m'a demandé quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, non seulement ça, mais que j'ai pratiquement refusé de faire. Et à ce moment-là, je suis entré dans une période difficile qui a duré presque un mois d'opposition à l'Esprit-Saint, je crois, c'est ça qu'il faut dire. C'est moins opposition à mon père abbé que opposition à l'Esprit-Saint qui m'habitait mon cœur et qui, je sentais bien, me disait peu à peu qu'il fallait que j'entre dans l'acte d'obéissance. Mais à ma petite mesure, si vous voulez, j'ai fait un peu l'expérience de Jésus à Gethsémani. Jésus à Gethsémani, il a fallu qu'il se batte pendant des heures et des heures pour pouvoir dire non pas ma volonté, mais ta volonté, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alors moi, donc, ça a duré plus longtemps puisque je me suis durci. Mon cœur est devenu un cœur de pierre, le cœur de pierre des prophètes. Vraiment, j'ai vraiment expérimenté le cœur de pierre d'Ézéchiel, de Jérémie. Jusqu'au moment où je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ce que je sais, c'est que c'est arrivé, ce cœur de pierre s'est brisé. Je suis incapable de dire pourquoi, comment. Ce que je sais, c'est que ce cœur s'est brisé et que j'ai vraiment vécu le baptême des larmes. Et j'ai pleuré pendant 3 jours. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'étais pécheur. Que mon péché consistait justement à m'enfermer en moi-même, à ne plus avoir de relation avec mon père abbé, que je refusais de voir. Et donc c'était l'enfer. Je crois que c'était l'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est cette épreuve dans laquelle on s'enferme en soi-même, l'enfer. Alors, comme a dit Lacan, qui disait « l'enfer me ment ». Effectivement, j'étais dans le mensonge, quoi. Et alors, lorsque ce cœur s'est brisé, lorsque j'ai pleuré un bon coup, lorsque je me suis confessé, je crois avoir expérimenté quelque chose de la puissance de Dieu au cœur même de mon impuissance. J'étais vraiment impuissant, je ne savais pas comment sortir de l'enfer, je ne voyais pas comment sortir. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut arriver pour que je puisse sortir de là? Et c'est arrivé. Je pense que c'est l'Esprit Saint, je pense. Si vous voulez, ça rejoint profondément l'expérience qui est la nôtre dans ceux qui essaient de vivre l'Esprit Saint. Nous sommes habités par l'Esprit depuis notre baptême. Notre cœur est temple de l'Esprit. Mais on ne le sait pas, ça, bien souvent. Alors, parfois, il faut que ce cœur soit durci et soit brisé. J'ai l'impression que c'est l'Esprit-Saint qui est mal à l'aise dans ce cœur malade, pécheur, et qui casse tout, quoi, je crois, non ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce lieu du cœur qui est en nous, on a parfois du mal à le rejoindre.
Tout à fait, parce que à cause du monde d'aujourd'hui, le bruit, le stress, l'agitation, des relations fraternelles qui sont difficiles, une peur, une angoisse par rapport à l'avenir. Et je crois que c'est surtout la peur de Dieu. On est tous marqués par la peur de Dieu depuis notre enfance. On a une fausse image de Dieu. Nous avons des fausses images de Dieu. Donc on se protège du vrai Dieu et du coup on ne peut pas rencontrer le vrai Dieu parce qu'on est au service des idoles. Donc il faut que les idoles, les unes après les autres, soient bâclées, soient enlevées, soient déchirées, soient mortes, quoi, pour que enfin le vrai Dieu, qui est humble, petit, pauvre, qui est là et qui dit « je me tiens à ta porte et je frappe ». Alors voilà, c'est ça. Si vous voulez, moi j'ai eu l'impression que Dieu se tenait à la porte de mon cœur, frappait doucement. Hein. Il frappe, jusqu'au jour où on dit « vas-y, entre », et il entre.
Est-ce que ce chemin-là ne ressemble pas finalement au chemin de l'enfant prodigue qui s'en va loin de son père
absolument.
Et qui finalement ne revient pas tout de suite, prend du temps avant de revenir?
Tout à fait. L'enfant prodigue, il est parti pour trouver la liberté, pour trouver sa liberté. Mais il ne comprenait pas qu'il partait avec un prisonnier en lui-même, lui-même. Il était prisonnier de lui-même. Donc, il a fallu qu'il soit acculé au rien, au vide, au néant. Et le texte grec, les traductions disent « il réfléchit ». Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Enfin, le texte grec dit « il entra en lui-même ». Et à ce moment-là, il a découvert sa pauvreté et il est revenu vers son père. Mais on remarque qu'il n'est pas revenu comme un fils. Hein. Il est revenu parce qu'il avait faim. Il est revenu comme serviteur. Et je crois pour ma part que c'est dans les bras de son père qu'il a découvert qu'il était encore fils.
Il a retrouvé son image.
Les pères cisterciens disent que l'enfant prodigue était parti dans la région de la dissemblance. Il avait perdu la ressemblance, mais il gardait l'image. L'image reste image, mais on tombe dans la dissemblance. Donc on revient et on retrouve la ressemblance.
Mais ce voyage, ce retour sur soi-même, oui. On ne le fait pas qu'une fois. Est-ce que ce n'est pas tous les jours à recommencer?
C'est toujours à refaire. Le voyage se terminera à l'heure de notre mort. Tant qu'on ne sera pas arrivé à ce stade-là, on continuera toujours à revenir sur soi, à vivre des expériences de non-obéissance, de péché. Et c'est peu à peu que le cœur se purifie. Mais on ne peut jamais dire que c'est déjà là. C'est à la fois déjà là et pas encore.
Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre à partir de ce lieu du cœur, au quotidien?
La prière, le silence, la solitude, la parole de Dieu, la rumination de la parole de Dieu. Se laisser purifier par la parole de Dieu qui nous aide à retrouver ce lieu du cœur, car la parole de Dieu est ensemencée dans notre cœur. On dit les paroles, elles tombent dans notre cœur, et donc en faisant silence, on retrouve des paroles qui surgissent et qui sont des réponses à des difficultés, des problèmes, des angoisses, des souffrances.
Dans votre livre, dans la brisure du cœur, vous dites que les pères n'arrêtent pas de dire que dans l'aventure spirituelle, il faut sans cesse avancer, sinon on recule.
On recule. Ça,
être oui. Fort.
Être fort, mais en même temps, il faut aussi reconnaître que Dieu nous rejoint dans notre faiblesse, dans notre pauvreté, dans nos misères, dans notre péché, au fond.
Et dans notre violence aussi.
Oui. Alors ça, c'est pour moi quelque chose qui me travaille beaucoup. Au fur et à mesure que j'avançais dans la vie monastique, et même en devenant père abbé, en écoutant les confidences de mes frères, j'ai quand même été un peu surpris de découvrir qu'il y avait tant de violence dans le cœur de l'homme. En même temps, maintenant, je ne suis plus surpris, parce que quand je vois la violence dans le monde, partout, au fond, et elle est en nous, la violence. Nous sommes profondément violents, et toute la Pâque consiste à passer justement de la violence à la douceur. J'aime beaucoup dire que finalement, l'homme spirituel, c'est un homme qui est doux.
Il a traversé sa violence pour arriver à la douceur.
Il a traversé la violence, mais il ne faut pas qu'il croie qu'il est arrivé, qu'il a déjà vaincu et que désormais c'est fini. Non, c'est toujours à recommencer. Et on voit ça d'ailleurs dans la vie spirituelle, des expériences étonnantes de gens qui avaient fait, semble-t-il, une expérience forte de Dieu, puis qui retombent dans la chair, comme dit saint Paul. Enfin, on n'est jamais entièrement dans l'esprit. Le combat spirituel est toujours là.
Vous parlez du combat spirituel, je crois que c'est quelque chose qui vous habite beaucoup, de demander sans cesse le discernement des esprits.
Tout à fait. À chaque fois que des gens me disent « on va prier pour toi », je dis « bon, d'accord ». Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, qui est tellement attaqué par un tas d'esprits, on ne voit pas très clair, donc il faut que nous recevions de l'esprit la capacité de discerner quel est le bien, quel est le mal, quels sont les bons esprits qui m'animent, les mauvais esprits qui m'animent. Et c'est jamais très, très facile. Et souvent, d'ailleurs, il faut avoir recours à un autre que nous. Un père spirituel qui, lui, a du recul par rapport à ce qu'on vit et peut nous orienter, peut nous diriger.
Vous dites que l'homme, dans votre livre, est marqué par la brisure du cœur et qu'il est appelé à la divinisation.
Pour ma part, ma conviction, c'est que la divinisation est une humanisation. C'est-à-dire que plus on est divinisé, plus on est humanisé, puisque nous sommes image de Dieu. Donc plus nous ressemblerons à Dieu, plus nous serons nous-mêmes. Les vrais saints sont des hommes profondément humains et divins. Mais en même temps, je crois qu'il faut toujours dire que quelque part, il y a toujours en nous une faille. Ça me fera beaucoup chez dans mon monastère font ces vieux moines, qui sont vraiment des hommes de prière, qui sont des hommes de louange, qui sont devenus bons. Dans chacun d'entre eux, il y a toujours quelque chose qui n'est pas encore au point, une faille, un tic, c'est bizarre. C'est ça, c'est l'humain, ça. Hein.
Et ça n'empêche pas la sainteté ?
Ah non, non, parce que, justement, le problème fondamental, à mon sens, de la vie spirituelle, c'est que, non seulement nous devons chercher Dieu, mais il faut savoir que si nous cherchons Dieu, c'est d'abord parce que Dieu nous cherche. Et ça, c'est une des grandes idées des théologiens d'aujourd'hui. Ça. Si je cherche Dieu, c'est parce que Dieu me cherche. Et ça nous donne une espérance fantastique dans le monde d'aujourd'hui. Je ne cesse de leur dire, moi, aux jeunes, mais Dieu vous cherche, vous désire, attend. Nous cherchons le Dieu qui nous cherche. Dieu cherche l'homme.